France Inter.
Dans un monde de plus en plus numérisé, où l'information ne cesse d'affluer,
Nicole Belloubet,
partout sur les réseaux sociaux,
ministre de l'Éducation nationale,
il faut donner à chaque élève les moyens de développer son esprit critique et de se défendre. C'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu de justice sociale et c'est aussi un enjeu de liberté.
L'enjeu est colossal pour des jeunes dont l'accès à l'information passe désormais par des smartphones. YouTube, TikTok, Twitter, Snapchat, Instagram, pour faire le tri parmi des millions de sources d'informations et de contenus, ce sont les algorithmes qui pilotent, sélectionnent et distribuent sur les écrans des vidéos venues de tous horizons. Résultat de ces flux ininterrompus d'images, les moins de 30 ans adhèrent 2 à 3 fois plus aux théories du complot que les seniors. La dernière grande enquête de l'IFOP sur le sujet montre une défiance vis-à-vis de la science. Près d'un jeune sur 6 envisage aujourd'hui la possibilité que la Terre soit plate. Près d'un sur 5 pense que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres. Beaucoup sont perdus face à l'actualité.
Quand on se fait livrer dans d'autres pays, c'est déjà plus cher. C'est pour ça que Macron augmente les prix, pour qu'ils puissent payer les autres trucs.
Qui est responsable alors de ça, vous avez une idée?
Les autres pays, plus Macron.
L'Europe.
L'Union européenne. Et on privilégie les immigrés qui travaillent pas, aux Français qui travaillent et qui sont bons citoyens.
Ça, c'est ce que vous lisez sur les réseaux aussi, ça
oui,
se retrouve
oui. Oui.
Paradoxalement, 83% des jeunes considèrent aujourd'hui qu'il est important d'être bien informé. Même s'ils privilégient le divertissement et pensent dans leur immense majorité qu'ils peuvent être manipulés, ils cherchent des sources, se tournent vers des diffuseurs nouveaux, plus proches d'eux dans la forme et dans le discours. Des influenceurs, des fournisseurs de contenu comme Hugo Décrypte, Salomé Saquet ou Gaspard G.
Quand on regarde les manifestations pour le climat, pour certaines causes dans la rue, on réalise que cette jeunesse, elle est là. Simplement, elle se retrouve plus soit dans des codes partisans ou dans la manière dont est diffusé et dont est distribué aujourd'hui le débat public en France.
Ces élèves, confrontés au défi inédit de devoir eux-mêmes évaluer l'authenticité des vidéos, des messages, des articles pour se faire une opinion, nous vous emmenons à leur rencontre. C'est au lycée Joliot-Curie de Nanterre que commence cette émission, avec une vingtaine de jeunes réunis au CDI, le Centre de Documentation et d'Information, pour une séance d'éducation aux médias. Génération Algorithme, à la recherche de l'info, un reportage d'Aurélien Colli, prise de son Martin Troidec et Frédéric Quéroux.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. On est en salle informatique au fond. Bonjour.
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 Je suis au CDI du lycée Joliot-Curie, le centre de documentation et d'information de cet établissement qui compte à peu près 1800 élèves, avec des filières générales, technologiques et professionnelles. Aujourd'hui, pour une vingtaine d'élèves de première générale qui sont en train d'arriver au CDI, il y a une séance d'éducation aux médias et à l'information.
Allez, installez-vous là où vous avez la table centrale.
Je vous demande de poser vos sacs par terre, enlever les manteaux même s'il fait un peu frais. On est comme en cours, même si on est au CDI.
Celle qu'on entend, c'est l'une des professeurs documentalistes qui gère le CDI. Elle s'appelle Christine Barrault et elle anime aussi ses ateliers qui ont lieu toute l'année ici.
Il manque combien de personnes là?
Deux, trois.
Ok.
Alors comment vous écoutez la radio en fait?
Téléphone.
Sur téléphone?
Ouais.
Vous avez des applications?
Sur Spotify.
Ouais. Ok. Et alors, comment ça se passe? C'est Spotify qui vous propose des contenus ou c'est vous qui allez chercher?
Non, sinon, on va chercher.
Mais il nous propose aussi.
Les deux.
Bah, en fait, c'est avec l'algorithme. Plus on cherche des trucs qui en sont en rapport, plus on saura nous mettre des trucs en rapport. Quoi.
Est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous écoutez des informations, par exemple, à la radio?
Skyrock? Je sais pas si c'est bon, mais il y a Move.
Ouais.
Je crois.
Qui écoute Move ici? Vous êtes le seul à écouter Move, je sais. Ouais, effectivement.
C'est effectivement Radio France.
Du lundi au vendredi, toute l'actu des réseaux.
BFM TV.
BFM TV.
TF1.
Bonsoir.
France 2.
M6.
CNews.
CNews, il est 6h la matinale.
Qui s'informe via les réseaux sociaux là? TikTok.
Ouais, surtout sur TikTok.
TikTok.
Ou Instagram.
Instagram, YouTube.
Twitter.
La chaîne YouTube de Hugo Décrypte.
Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de l'actualité du jour.
Pourquoi Hugo Décrypte? C'est qui Hugo Décrypte d'ailleurs?
Journaliste.
Il est journaliste? Et c'est pour ça que vous le regardez?
Parce qu'en fait, il arrive à se mettre sur des plateformes où on est. Ça nous évite d'aller sur d'autres truc ennuyant, parce que c'est des formats réduits et des formats qui sont plus fun à regarder que la télé.
C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs.
Là, on parle d'informations que vous allez chercher sur les réseaux sociaux. Est-ce que des informations qui viennent à vous sur les réseaux sociaux?
Oui,
d'actualité.
Ouais. Bah, y a un petit onglet à côté. Des fois, je lis conflit, géopolitique.
Par exemple, est-ce que vous avez un journal où vous allez chercher comme ça ce type d'article de géopolitique un peu complexe, un peu...
Des fois, sur Le Monde, il y a des petites revues de presse sur ce qui se passe en Ukraine ou en Russie. Ou ce qui se passe actuellement en Palestine et Israël.
C'est que quand c'est des événements marquants, par exemple, que je m'intéressais. Les JO 2024, Russie, Ukraine... Et...
Le conflit en Palestine. Sinon, à part ça, je ne suis pas très intéressé.
Le Covid. Sinon, par exemple, les petits sujets, non.
Mais il y a aussi beaucoup de fake news aussi. On peut très facilement tomber dans les fake news. Personnellement, je suis déjà tombé plein de fois. J'avais entendu parler de Cristiano Ronaldo, célèbre joueur de foot, qui avait fait don de son hôtel aux réfugiés marocains du séisme. Énormément de personnes qui parlaient de ça. Jusqu'à qu'un compte sur TikTok certifié et un compte fiable avoue que c'est une fake news. Mais moi, j'y ai cru parce que vraiment, mon fil d'actualité, il n'y avait que ça.
Les rumeurs, ça part vite et tout, donc... On n'est pas tout le temps sûr sur les réseaux sociaux, alors que par exemple, si je sais pas, on a une application, par exemple Le Monde ou France Info, ça nous envoie une notification, on reçoit, c'est plus sûr, on se dit ok, c'est déjà mieux que les réseaux sociaux, parce que les réseaux...
Christine Barraud, professeure documentaliste.
Ça fait combien de temps que vous, ici, dans cet établissement, vous développez réellement ces activités ?
Ici, au lycée, depuis, on va dire, 2 ans, on a vraiment pensé des projets globaux. Par exemple, cette année, en seconde, tous les élèves de seconde ont des séances de sensibilisation à la désinformation. Les élèves de première et terminale auront des séances avec des professionnels de l'information aussi.
Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui ressort en permanence de tous ces rendez-vous que vous faites?
C'est très compliqué d'avoir une photographie comme ça d'ensemble de nos élèves, parce que les pratiques sont quand même variées. Je pense qu'effectivement, ils sont énormément sur les réseaux sociaux, mais ils en ont conscience malgré tout quand on en parle avec eux. Ils ont conscience aussi que les contenus des réseaux sociaux ne sont pas toujours fiables. Est-ce qu'ils font l'effort à chaque fois d'aller vérifier l'information, croiser les sources, demander qui leur parle, d'où on leur parle? C'est pas certain. Mais est-ce qu'ils sont si crédules que ça? Pas toujours non plus. D'où l'intérêt aussi de leur faire connaître le métier de journaliste, travailler avec des journalistes, pratiquer eux-mêmes.
Qu'est-ce qui ressort le plus au-delà de l'usage des réseaux sociaux?
Il y a une distanciation vis-à-vis des médias traditionnels. Et cette mise à distance avec les médias traditionnels, elle est problématique parce qu'à partir du moment où ils ne regardent plus la télévision, ils ne lisent plus les journaux, ils n'écoutent plus la radio... Bien, quand on va passer effectivement sur un fil Twitter France Info, si on ne sait pas qui est France Info, comment savoir si France Info fait un travail effectivement journalistique peut-être plus approfondi qu'un youtubeur lambda qui va parler du fond de sa chambre sans avoir vérifié l'information qu'il va relayer. Et donc cette distanciation va engendrer forcément une porosité effectivement à des fake news ou à une mésinformation après... Il faut vraiment qu'il y ait de vrais espaces, de vrais temps, alors qu'aujourd'hui, l'éducation aux médias, c'est aussi un peu sur la base du volontariat, des collègues qui veulent bien développer des projets, un peu au détriment du temps disciplinaire. Et pour certains collègues, d'ailleurs, ça peut même être considéré un peu comme une perte de temps. Et pourtant, l'enjeu, quand même, il est énorme.
Une femme nommée Natacha Ray, se présentant comme une journaliste indépendante, donne en direct une interview de 4 heures pendant laquelle elle explique ses arguments. Elle en est convaincue.
Extrait de la chaîne YouTube de Blast.
Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux, son frère de 7 ans son aîné.
Brigitte Macron, la vérité sur l'affaire Trogneux.
La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, coquilles sur les documents officiels, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Et si elle avait raison? Et si nous avions affaire à un secret d'État?
À Nanterre, l'éducation aux médias, c'est toute l'année et pour toutes les classes. Il faut dire que l'Île-de-France est la région avec le plus de ressources dans ce domaine, d'après un rapport parlementaire qui est sorti l'année dernière et qui parlait aussi de désert d'éducation aux médias à propos d'autres territoires où non seulement ça dépend beaucoup de la bonne volonté et de la motivation des profs, des proviseurs ou des rectorats, mais ça dépend aussi des budgets qui sont disponibles pour la formation des profs ou pour l'intervention de journalistes qui, eux, sont souvent loin, donc plus difficiles à faire venir sur place. Je suis à Ménil-en-Ouche, maintenant, en Haute-Normandie. C'est la campagne entre Évreux, Lisieux et Alençon. 5000 habitants sur un territoire plus grand que Paris. Et devant moi, il y a le campus éducatif Jacques Daviel, 300 élèves de la maternelle au collège. Ici, l'éducation aux médias, c'est une fois par an, à l'occasion de la semaine de la presse. Et c'est porté par un prof d'anglais que je vais maintenant retrouver. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Aurélien Colli, France Inter.
Jean-François Titelouze, donc enseignant en anglais au collège Jacques Daviel de Ménil-en-Ouche et professeur principal d'une des trois classes de troisième du collège.
Alors c'est vous qui êtes à l'origine pour cette semaine de la presse, d'ateliers spécifiques qui sont mis en place cette semaine.
C'est ça, nous avons répondu à un appel à projet qui s'appelle Journaliste en classe et qui nous permet d'accueillir une journaliste pendant 18 heures sur la semaine, donc ça fait 6 heures par classe de 3e, avec comme objectif de réaliser un journal mural avec les élèves. Et puis ça leur permet aussi de rencontrer des professionnels. On est quand même à Ménil-en-Ouche, en territoire rural. Donc les journalistes, il n'y en a pas forcément énormément dans le secteur. Donc c'est une chance pour nos élèves de pouvoir rencontrer des professionnels et de travailler avec eux pendant une semaine. Le thème de la semaine, c'est l'information sur tous les fronts. Et les réseaux sociaux font évidemment partie des fronts sur lesquels on se penche. L'information et la désinformation. Chaque fois qu'il y a une nouvelle rumeur sur un réseau, hop, ça arrive dans la cour du collège. Et en fait, ils vont retirer beaucoup de choses de cette semaine. Et on est vraiment ravis de pouvoir faire ça.
Bon, bah on va y aller. On va aller dans la salle.
Parfait. On y va.
Concrètement, journaliste en classe, ça veut dire qu'il y a une journaliste professionnelle qui est là à Ménil-en-Ouche. Elle va passer toute la semaine dans le collège avec les classes de 3e.
Bien, donc bienvenue sur cette première session de journaliste en classe. J'ai le plaisir de vous présenter alors en...
Delphine.
Voilà, Delphine, que vous avez vue sur la visio vendredi après-midi et qui donc va vous accompagner tout l'après-midi.
Bon, bah bonjour. Pour vous, c'est quoi une information ?
Une information, c'est un peu une chose qu'on apprend. Genre, imaginons, j'étais informé qu'un collège qui a été inauguré.
Ouais.
C'est une chose que j'apprends.
Pour moi, une information, c'est une rumeur.
Est-ce que c'est vraiment une information, une rumeur ?
Ouais, mais c'est pas forcément une rumeur parce que il y a peut-être des sources qui vérifient.
Une rumeur, c'est une information pas vérifiée.
Eh ben, vous avez tout dit. Donc il y a la connaissance, il y a la source et la vérification. En fait, c'est ces trois aspects qu'il va falloir que vous transmettiez dans votre journal et dans vos articles. Vous allez transmettre une connaissance. Vous allez citer les sources qui vous auront aidé à trouver ces infos, ces connaissances. Et vous allez vérifier, et on va vérifier ensemble, de toute façon. Et d'après vous, pourquoi c'est si important, une source ? Non ? Ça peut être une personne ?
Ça peut être un livre, une fresque,
oui,
une gravure.
Vas-y, Antonin.
Les sites internet ?
Oui, oui, le site internet, tout à fait. Et il y a quel moyen de vérifier, en fait ? Déjà, qui est l'auteur du site ? Qui est la structure qui édite le site ? Qui est la personne qui écrit sur le site ? Enfin, voilà, il y a des choses à remonter. Oui, ton prénom, j'ai déjà oublié, excuse-moi. Théo.
Aussi, on peut regarder sur plusieurs sites si on retrouve les mêmes infos.
Il faut recouper. Ben, en fait, on est déjà dans le vif du sujet. Donc, ce que je vous propose, chaque groupe note des idées sur un papier. Sur quoi vous pourriez écrire ? Quels sont les thèmes ou les sujets qui vous paraissent importants tant que collégien de 3e ? Ça va nous aider à structurer un peu le futur journal. Ok ? Delphine Ancena, je suis journaliste et animatrice d'ateliers journalistiques. Je trouve que déjà, ils sont assez un peu au taquet quand même sur certaines choses. Ils n'identifient pas très bien, mais par contre, ils ont cité les sources, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même parfois rare, je crois. Quand quelqu'un parle de rumeurs, ils réagissent très vite. Mais l'information, ils ont compris ce que c'était globalement. Ils ont compris l'essentiel qu'il fallait vérifier, il fallait apporter une connaissance. Après, c'est vrai que ça demande d'être creusé.
Qu'est-ce que vous avez là, Edson, déjà autour comme idée ?
On a Cuba, le narcotrafic, le génocide congolais, l'inflation.
Et pourquoi ça vous intéresse ?
Les GoFast et tout.
Ouais.
Donc ça c'est le narcotrafic.
Ouais.
Ok.
L'inflation, parce que c'est un peu primordial d'en parler, tous les prix qui augmentent.
L'inflation, ouais.
Augmentent
ouais.
À un point exorbitant.
Toi c'est quelque chose que tu vois aussi chez ouais. Toi, tu le sens, ouais.
Ouais, bah oui, avec 8 frères, oui, ça se sent.
Vous voyez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sur l'inflation ?
Oui. Ouais. Oui, bah oui, on voit les. Ça fait des sondages par rapport aux prix, aux anciens prix et aux nouveaux prix, et on voit que c'est exorbitant le nombre d'euros perdus en quelques années.
Et vous voyez aussi des informations sur les raisons de l'inflation, pourquoi on en est arrivé là ou...
Oui, parce que déjà, quand on se fait livrer dans d'autres pays, c'est déjà plus cher. C'est pour ça que Macron augmente les prix, pour qu'il puisse payer les autres trucs.
Le problème, c'est justement les prix augmentent, mais les salaires non.
Qui est responsable alors de ça ? Vous avez une idée ?
Les autres pays plus Macron.
L'Europe.
L'Union européenne.
Ouais. T'as dit aussi immigration fléau ?
Ah oui, l'immigration ouais. C'est un fléau.
Les gens, ils arrivent, ils ont tout ce qui est allocation et tout, et ils travaillent pas encore.
Et on privilégie les gens qui, les immigrés qui travaillent pas, aux Français qui travaillent et qui sont bons citoyens.
Ça, c'est ce que vous lisez sur les réseaux aussi, ça
oui,
se retrouve ?
Oui. Ouais. Oui. Instagram.
Il y a des comptes particuliers que vous suivez ou c'est des choses qui circulent,
c'est
qui passent ?
Des choses qui circulent. Ouais.
Alors moi, je voulais savoir ce que vous aviez noté pour l'instant.
Pour le moment, on a noté tout ce qui est viol, consentement, la discrimination, puis la liberté d'expression.
Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ça ? Viol, consentement ?
Pas forcément assez pris au sérieux par certaines personnes.
Pourtant, il y a des campagnes, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. Il y a toutes les campagnes MeToo, là, sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Et vous les avez vues, vous aussi, sur les réseaux, ces vidéos, ces trucs,
ouais. Oui. Mais beaucoup refusent d'y croire. Souvent, les personnes s'en moquent ou des trucs comme ça, c'est...
J'ai vu un truc, sérieux. Un gars entouré de femmes dans une pièce, il va être tout de suite excité. Une femme entourée d'hommes dans une pièce, ça va avoir peur.
Avec un aussi.
Mais ça, j'ai jamais.
Ah ouais.
Toi tu l'as pas vu toi,
ah non,
la vidéo.
Non.
Mais moi j'ai les trucs de guerre, Poutine et tout ça. Voilà, ça j'ai.
T'as jamais eu un truc sur le viol, les attouchements?
Si, j'ai déjà eu des filles qui témoignaient. Ouais, j'ai déjà eu.
Alors c'est là qu'on voit vraiment que sur les réseaux sociaux, ce sont les algorithmes qui font la loi, qui déterminent les informations, les vidéos, les messages qui arrivent, que chacun reçoit ou ne reçoit pas, que chacun voit ou ne voit pas. Alors vous êtes sur les disparitions, c'est ça ?
Oui.
Voilà. En fait, tu regardes l'affaire du pont de Ligonnès. Ouais. Pourquoi toi, ça t'intéressait, ça ? Parce qu'il y a le livre de sa sœur, là, qui est sorti ?
Je sais pas.
Ouais, apparemment, elle est sûre que sa famille, elle n'est pas morte. Ouais. Ou ils sont encore en vie, quelque part.
Oui, c'est ça. C'est que sa sœur dit qu'ils sont tous en vie. Donc, elle dit quelque chose qui est le contraire de toute l'enquête. Tu fais plutôt confiance à la police qui a retrouvé les corps ou plutôt confiance à la sœur qui dit que bah, c'est peut-être pas aussi simple ?
Moi, je dirais que je fais plus confiance à la police. Ils ont trouvé les corps. C'est eux, ils ont les traces d'ADN, ils ont tout. Donc, pourquoi ils inventeraient des corps juste pour, au final, faire une affaire comme ça ?
Dans tous les établissements scolaires, c'est le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui forme les enseignants et diffuse les outils pédagogiques en lien avec l'éducation nationale. Mais il ne touche pas l'ensemble des jeunes. Le dernier rapport parlementaire le montre. Ceux qui sont déscolarisés, qui ont quitté l'école et travaillent, ceux qui sont dans des établissements privés ou des formations de type BTS, IUT, voire dans les universités, ne reçoivent aucune formation sur le sujet. Ce public non captif, c'est le terme utilisé par les professionnels, se retrouve seul face aux flux, aux écrans, aux fake news. Comme à Roubaix, où on retrouve Aurélien Colli au cœur d'un ancien quartier ouvrier avec une population qui reste précaire, pauvre, parfois touchée ou stigmatisée par des affaires de radicalisation et de communautarisme.
Interception sur France Inter.
Je suis au cœur du quartier du Pile, à Roubaix, devant un immense bâtiment en briques rouges qui s'appelle la condition publique. C'est marqué sur le fronton. C'est un ancien centre de conditionnement du textile qui a été réhabilité et transformé en manufacture culturelle. À l'intérieur, on trouve un skatepark, un café, des espaces pour des expositions, des rencontres, des concerts.
Et puis dans les étages, dans les anciens labos où on analysait la qualité du textile, eh bien il y a des studios pour la musique, pour les artistes, aussi pour des associations, notamment le Labo 148 qui fait de l'éducation populaire aux médias et à l'information pendant toute l'année et à sa manière.
Bonjour, oui, Aurélien, salut,
ça va ?
Oui, ça va,
bien. Déjà bienvenue à la condition publique à Roubaix, déjà bienvenue à Roubaix, parce que c'est important. Moi je suis Julien Pitinum, je suis photographe et surtout je coordonne le Labo 148 qui est un projet média et artistique ici à la condition publique à Roubaix.
Ça va, Zora ?
Ça va bien.
Ça va.
Alors le labo il est là, ici à gauche.
Un grand espace.
On a des bancs de montage,
montage vidéo, photo, son,
on a un peu tout. On n'est pas pro dans tout, mais par contre, on a de quoi travailler dans plein de choses. Et on produit collectivement, parce qu'ici, les jeunes ont entre 15 et 30 ans. Moi, je suis un gamin d'ici, hein, je suis né à Roubaix, j'ai grandi à Tourcoing. Et moi, je me dis toujours, si à 17, 18 ans, on m'avait dit que je pourrais être photographe, par exemple, aujourd'hui, c'est possible. Moi, j'ai pas de formation de photographe et ni de journaliste, et pourtant, je fais ce métier-là. Là d'où je viens, ma formation d'éducateur, je me suis dit ben, comment on peut le transmettre. Donc moi, pour moi, ce projet-là, Labo 148, il permet ça. C'est des conditions favorables pour développer, se poser, transmettre aussi. Moi, je parle peu d'éducation aux médias depuis le début, et volontairement aussi, parce qu'en fait, quand nous, on réalise une vidéo, en fait, derrière, on apprend la fabrique de l'information, comment on interviewe quelqu'un, ça veut dire quoi aussi de récolter une parole, la transformer, en tout cas de l'articuler, de la monter et puis de la diffuser. C'est aussi maîtriser quels sont les impacts derrière de ce travail-là. Donc déjà, en comprenant comment ça se fabrique, en fait, on va mieux saisir comment sont les informations. Après, moi, je travaille pas trop sur les fake news, etc. Mais on a des débats, des fois, sur ces choses-là. Quand on est dans un espace safe, comme on a créé ici, où tu peux t'autoriser à te poser, à raconter, etc., en fait, l'éducation aux médias, elle se fait aussi par l'informel. Par le fait de, tiens, j'ai vu sur tel truc, il s'est passé ça à Roubaix. L'autre te dit, ouais, attends, viens, on vérifie. Apprendre les mécanismes, ça permet de comprendre la fabrique, mais aussi de devenir producteur de ta propre information. Là, par exemple, on a une soirée qui est une soirée autour des jeunesses et on fait une émission de radio. Puis, un projet comme le Labo 148, il y a des intimités qui se créent entre des jeunes, avec nous aussi, qui fait qu'on peut aborder aussi tous ces sujets, des fois, qui paraissent complètement fous, de désinformation, etc. Mais on en discute. Moi, je coordonne le labo, mais en fait, je suis pas leur pote non plus, mais je suis pas leur prof.
Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Ouais. Alors moi, je suis Arto Victory, j'ai 20 ans, et puis j'habite à Roubaix depuis 3 ans, et je suis au Labo 148 depuis 1 an et demi, 2 ans environ.
Ton ordinateur, il est ouvert, t'es sur YouTube, et ouais. Là, Tataki, c'est quoi ?
C'est un média que je regarde... en vrai, si je crois que je devais choisir un média, je choisirais peut-être celui-là. Et c'est un média suisse, du coup, qui est financé par la RTS, donc c'est...
Radio-télévision suisse.
Ouais, c'est ça. Il y a 5 ou 6 chroniqueurs et en fait, ils ont chacun une manière d'aborder des sujets. Et lui, il fait de l'immersion, uniquement de l'immersion. Là, il y en a un qui fait des crash tests, donc c'est vraiment de l'expérience et c'est souvent un peu sociologique, quoi. Il va tester lui, enfin, ils vont tester entre eux, dans un groupe, comment ça marche. Elle, par exemple, c'est plutôt partir d'un témoignage et en arriver à une conclusion. C'est peut-être ce qui ressemble plus à du journalistique.
J'ai tout, oui, je vois que t'as tout regardé. Alors, et si le cannabis devenait légal, par exemple ?
Bon, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais le cannabis, c'est vraiment la drogue la plus consommée dans le monde. Et ça, de très, très, très loin. Dites-vous qu'en 2021, il y avait déjà plus de 200 millions de fumeurs dans le monde. Et rien qu'en Suisse, 56 tonnes de weed sont consommées chaque année. 56 tonnes, vous savez, ça équivaut à 750 000 joints fumés par jour. Ça fait beaucoup.
On a aussi Je passe 48 heures avec un millionnaire à Dubaï.
Des personnes qui vous vendent argent et succès sur fond de musique drama, vous envoyez des dizaines par jour.
La plupart des gens
pensent
devenir millionnaire.
C'est un phénomène qui a explosé depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Et depuis le début, il y a une personne qu'on voit partout et qui s'est démarquée des autres, c'est Yomi Denzel.
Je suis un entrepreneur, je suis aussi youtubeur. Et je me suis lancé il y a 6 ans.
Ça fait six ans
que je fais du business en ligne.
Alors là, je vois le plus grand secret du Vatican.
Son championnat de foot, tu vois.
Alors, aujourd'hui, on compte environ 1,3 milliard de catholiques sur Terre. Et dites-vous que seulement 135 sont sélectionnés pour rejoindre la plus petite armée du monde. Et vous allez voir, les critères sont très sélects.
Et après, automutilation commence à sortir.
Je sais pas si c'est une question simple, mais Mélissa, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur qui t'a poussé à te faire du mal?
Le jour où vraiment tout a capoté, en fait, c'est le jour où mon père est parti de la maison. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur, vraiment, on va dire, d'un début de dépression qui est venu.
C'est hyper varié, et ça, c'est, je trouve intéressant là-dessus. Moi, je consomme beaucoup, beaucoup d'informations culturelles, du coup, autant dans le skate que dans la musique. Et pour ce qui est de l'information plus générale, plus actuelle, j'ai pas forcément envie de mettre mon cerveau dans une ambiance d'information continue. Par exemple, sur Instagram, je suis pas abonné à des comptes de journalistes ou de médias, mais j'en ai qui tombent. Et je vais aller le regarder. Mais je vais pas aller le rechercher, forcément.
En fait, c'est une information qui vient à toi.
Qui vient à moi.
Par le système, les algorithmes, etc.
C'est ça. Et sur YouTube, j'ai aussi la sensation, en fait, d'avoir un accès aux médias plus général, mais qui sont pas des médias d'actualité. En vrai, aujourd'hui, mon vrai raccord à l'information, entre guillemets, traditionnelle qu'on connaît, c'est Hugo Décrypte, en vrai.
Alors, Hugo Décrypte, c'est la référence pour le créateur de contenu de votre génération. Il y en a plein qui commencent à arriver.
Ouais.
T'es conscient que à peu près n'importe qui peut dire à peu près n'importe quoi et que donc il faut quand même s'en méfier.
Oui, ça, oui, j'en suis conscient. Je regarde qui a posté ça. Mais c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant justement d'en parler autour de ses amis d'information parce que du coup, on la confronte aux autres et je pense que c'est comme ça aussi qu'on tend à vérifier son information. C'est qu'à un moment, ici, c'est sûr que quand on entend des informations, ça nous arrive d'en parler et du coup, c'est super intéressant là-dessus. Et aussi parce que les sujets sur lesquels on travaille, en vrai, on ne fait pas du tout comme Tataki, par exemple, mais dans le Labo 148, il y a une notion de ça. Un aspect journalistique, on va raconter des faits de société. Mais clairement, être dans cet endroit-là, par exemple, l'année dernière, on a fait un truc sur l'exil. Et y en a qui sont allés voir à Dunkerque des traces de gens ayant fait le voyage entre la France et l'Angleterre. Et ils nous ont rapporté les informations qu'ils ont vues. Et on a vu des gens qui avaient travaillé là-dessus. Pareil sur les notions de violence policière, etc. Où en fait, la façon dont les vidéos sont faites et dont les photos sont faites, voir une retouche en zoomant un peu et se dire « Oh tiens, là, il n'est pas cohérent ce truc-là ». L'aspect technique, c'est la première forme où je peux me dire « Ok, c'est une fake news, là, je vois l'image, je le vois, je le sais ».
Les copains, les copines, est-ce que vous vous êtes déjà demandé...
Pendant que je parlais avec Artaud, il y a une trentaine de garçons et filles qui sont arrivés. Ce soir, c'est la réunion hebdo du Labo 48 avec ceux qui participent toute l'année aux ateliers médias information qui sont animés par Julien Piquinome, l'éducateur photojournaliste.
Bonsoir tout le monde. Ça fait très solennel, vous allez bien? Bon, ça fait plaisir de vous voir, j'espère que les vacances ça a été. Ce soir, émission de radio Les Ondes Urbaines numéro 15, c'est Camélia et Asma qui présentent.
Alors du coup, l'émission radio elle va commencer par un plaidoyer pour réaffirmer qui on est, qui est le labo, pour lancer le truc. Donc le premier sujet qui va être abordé, c'est le partenariat de l'INA et du Labo 148 au premier semestre de cette année. Faire passer deux extraits de vidéos qui ont été produites lors de ce partenariat. Peut-être une lecture du texte d'Elodie et un extrait audio de la vidéo sur l'ALMA, sur le thème de la rénovation de ce quartier. Ensuite, ça sera le moment des interviews, deux associations caritatives robésiennes. Et enfin, pour terminer sur une petite touche de légèreté, on va avoir Amanda et Ernest. Amanda est ventriloque et Ernest, du coup, est son petit, sa petite marionnette.
Vous êtes bien sur les ondes urbaines. L'émission du Labo 148.
À Roubaix et même partout en France, on parle souvent d'une épidémie de flemme chez les jeunes, mais nous, on parlerait plutôt d'une épidémie de vieux cons. Les ondes urbaines.
Comment vous vous appelez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Votre prénom, votre âge, que vous faites?
Alors, je m'appelle Camélia, j'ai 22 ans et cette année, je suis en première année de design de l'information.
C'est quelque chose que vous avez découvert en passant par le Labo 148?
Quand j'étais au lycée, en fait, c'était un peu un rêve de devenir journaliste.
et j'ai eu un atelier d'écriture journalistique. J'ai mis longtemps avant de consommer vraiment de la formation. Avant, c'était vraiment les choses basiques, donc le journal télévision, le soir en mangeant, ce genre de choses.
Que vos parents regardaient.
Exactement. Je commence davantage à m'abonner, bah, encore une fois sur les réseaux sociaux, mais à des médias divers et variés. En fait, maintenant, j'aime bien aussi voir un peu plein de médias différents. Bondy Blog, ou là récemment, il y a Popol Media qui a ouvert, enfin, ce genre de choses un peu pour avoir diverses ouvertures sur les mêmes sujets. Ma consommation de l'info et ce que je vais chercher, etc., ça dépend vachement des événements du moment, de l'actualité un peu chaude et qui m'intéresse. Par exemple, en ce moment, avec le conflit israélo-palestinien, j'ai de la famille au Maroc, enfin voilà, tout ce qui est actualité aussi du Moyen-Orient, des pays arabes, etc., ça m'intéresse. Tout ce qui est des sujets politiques et tout, j'ai 22 ans, mais c'est quand même très récent que je m'y intéresse. Je disais aux dernières présidentielles, parfois on me posait des questions sur mon engagement politique, mais en fait, j'y répondais, mais je ne connaissais rien à la politique.
Tout ce que vous avez fait ces dernières années, dans ces ateliers de création, radio, presse écrite, etc., est-ce que vous avez l'impression que ça vous a donné des outils ?
Complètement. Bah déjà, dans un premier temps, ça nous montre aussi comment créer de l'information un peu autrement, comment on parle de sujets qui peuvent être sensibles, sans que ça soit, par exemple, stéréotypé. Ici, à Roubaix, il y a eu beaucoup de reportages, malheureusement, sur cette ville hyper stéréotypée, qui nous ont nous-mêmes marqués. Quand on voit une image choc, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur un sujet, ben, on se dit, faut voir ce qu'il y a derrière, le contexte, il y a des images trompeuses aussi, enfin, il y a plein de choses. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend à le faire sur tout type de support.
Est-ce que vous êtes quelquefois frappé par ce que des gens autour de vous, hein, des copines, des copains, des cercles familiaux, etc., peuvent croire ou lire ou recevoir?
Complètement, bah même dans mon cercle familial en fait. Mon papa, par exemple, qui est donc issu de l'immigration, qui est chauffeur routier, qui a parfois des propos sur, par exemple, l'immigration aujourd'hui en France qui me dépassent. Ou alors, des fois, qui voit des choses, c'est la génération Facebook, je sais pas, le ciel est devenu rose, enfin des choses vraiment complètement pour moi qui me semblent absurdes et qui me disent, mais t'as vu, et qui m'envoie, etc. C'est pas possible. Des fois, c'est vrai que du coup, même dans les générations plus jeunes, je suis aussi stupéfaite de ce que je peux parfois entendre.
La Terre est plate.
C'est ça, exactement.
Les Américains n'ont pas marché sur la Lune.
Le genre de...
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, énormément de monde. La Terre est-elle plate, oui ou non? Aujourd'hui, je vais tout vous révéler, je vais tout balancer, preuve à l'appui. Preuve numéro 1. Si la Terre était sphérique, il serait impossible de jouer au foot normalement, parce que le ballon déroulerait sans arrêt sur le terrain. Pour jouer, il faudrait mettre des filets tout autour des stades. De plus, de l'autre côté de la Terre, en Nouvelle-Zélande, ce serait encore plus difficile du fait qu'il faudrait jouer la tête à l'envers, avec des baskets qui font ventouse, pour pas tomber dans le vide, évidemment.
D'après un sondage de l'IFOP qui est sorti en février l'année dernière, dans la tranche des 18-24, près d'un jeune sur six partage l'idée selon laquelle on nous ment sur la forme de la Terre qui serait plate. Quant à la Lune, eh bien c'est un jeune sur cinq qui estime qu'en réalité les Américains n'y ont jamais mis les pieds.
Salut! Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la force de frappe de la chaîne Topito pour dire tout haut ce que David Pujadas ne vous révélera jamais. Aujourd'hui on va parler d'un des plus gros mensonges de l'histoire, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et comme je suis quelqu'un de sérieux, j'ai bien taffé le dossier, j'ai des arguments plein ma petite banane et je vais donc vous les présenter maintenant.
Alors en fait, plusieurs études montrent qu'en France ou ailleurs, les nouvelles générations sont devenues bien plus poreuses aux théories complotistes, aux fake news, mais aussi à la désinformation. Je suis à Paris maintenant, dans le Quartier Latin, et je vais rencontrer une journaliste spécialisée dans ce domaine. Elle s'appelle Chine Labbé. Elle travaille pour NewsGuard. Ce sont des journalistes partout dans le monde qui recensent les grandes fake news qui circulent, qui traquent les campagnes de désinformation, voire de propagande. NewsGuard a même développé un outil pour savoir si une source d'information est fiable, un genre de Nutri-Score de l'information en ligne. C'est Chine Labbé qui va m'en dire un peu plus. Normalement, elle est basée en Suisse, mais elle est en ce moment de passage à Paris.
Pour des dizaines et des dizaines et des milliers de sites internet, que ce soit des sites de grands médias comme Radio France, ou que ce soit des petits blogs ou des sites conspirationnistes, on va écrire des analyses en expliquant pourquoi le site est crédible, s'il corrige ses erreurs, s'il distingue faits et opinions, s'il vous dit à qui il appartient ou non, et s'il vous le dit pas, nous on va vous le dire, etc. Et donc l'idée, c'est de permettre aux internautes, quand ils naviguent sur Internet, de savoir qui leur donne l'info.
Est-ce que vous pouvez me montrer alors comment ça fonctionne ?
Je vais sur Google, je vais taper Ukraine pour faire remonter des articles d'actualité de divers médias. Donc là, ici, vous voyez dans le petit onglet à la une, il y a un article de BFM TV. Vous avez une petite icône avec un pourcentage sur 100, donc le score en fait de BFM TV. Ici, vous avez un article du Monde, un article de l'Express. Donc on peut regarder le Monde. Donc si je passe ma souris sur la petite icône, ça vous dit que le Monde a reçu le score de 95 sur 100. Il y a une petite description rapide qui va expliquer l'actionnariat, le type de contenu qu'on trouve sur le site, etc. Les critères, c'est est-ce que le site publie des contenus faux ou grossièrement trompeurs de manière répétée ? Est-ce qu'il recueille et présente l'information de façon responsable ? Est-ce qu'il a des procédures efficaces pour corriger les erreurs ? Est-ce qu'il gère de manière responsable la différence entre information et opinion ? Est-ce qu'il évite les titres trompeurs ? Donc ça, c'est la crédibilité. Et pour la transparence, c'est est-ce qu'il vous dit à qui il appartient ? Comment il est financé ? Est-ce qu'il identifie clairement la publicité ? Est-ce qu'il vous donne des informations sur les créateurs de contenu ? Et en l'occurrence, le Monde, il échoue sur ce dernier critère seulement. Ils ont renoncé, en fait, à donner les adresses e-mail des journalistes pour les protéger de messages malveillants. Ensuite, vous avez toutes les sources qu'on a utilisées, donc vous pouvez aller vérifier ce qu'on vous dit.
Il y en a beaucoup des outils comme ça qui existent aujourd'hui ou il n'y a que vous ?
Un outil comme ça, à ma connaissance, c'est le seul, ouais.
Il ne serait pas évident qu'un outil comme ça soit, par exemple, disponible dans toutes les bibliothèques de lycée, de collège ?
On ne travaille pas dans les écoles, nous. Mais ce qu'on a décidé de faire, on a décidé d'aller investir à un lieu qui est peut-être un peu moins investi et qui mérite de l'être, que sont les bibliothèques publiques. Donc on donne accès gratuitement à notre extension de navigateur, à toutes les bibliothèques publiques qui le souhaitent, en se disant que ça peut aider à atteindre d'autres publics. Il y a eu des études qui ont montré que les seniors étaient très responsables de la diffusion de fausses informations pendant la crise du Covid, par exemple. Comment on atteint aussi des gens qui vont être déscolarisés, qui peuvent être jeunes, mais qui ne sont pas en milieu scolaire. Et après, il y a sans doute d'autres lieux qu'il faut aussi investir, peut-être dans les centres sportifs, dans les centres sociaux. Non, voilà, il faut réfléchir à quels sont ces autres endroits où on peut avoir accès à ces publics.
Il y a un enjeu réel pour vous ?
C'est un vrai enjeu, parce que c'est pas une question de faire la morale ou penser que les jeunes ne savent pas lire les médias, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a tellement de médias qui se font passer pour des médias d'actualité traditionnelle, qui sont en fait dirigés en arrière-main par le Kremlin, par des puissances étrangères, par des vrais propagandistes, qu'on ne peut pas aujourd'hui naviguer sans un petit peu d'aide, sans accompagnement. Aujourd'hui, vous avez aussi les sites générés par IA, sans supervision humaine. Pour repérer ces sites-là, c'est très difficile aussi, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. On en avait dénombré 49 en mai 2023. Aujourd'hui, on en est à plus de 700. Un jeune à qui vous expliquez ça, que ce site, il n'y a pas d'humain derrière, il n'y a pas de contrôle éditorial. Il y a juste un algorithme à qui on a demandé de sélectionner des histoires sur Internet qui sont très controversées pour créer du clic. Il ne va pas vouloir aller sur ce site. Finalement, personne n'aime être manipulé. Mais on ne sait pas toujours qu'on est manipulé en ligne.
Au-delà de l'impact sur les jeunes, c'est l'inquiétude pour le fonctionnement démocratique que plusieurs organisations comme NewsGuard mettent en avant. L'organisme qui rappelle la contestation du clan Trump après les résultats de la présidentielle américaine vient de créer un observatoire destiné à surveiller les élections européennes. Un scrutin qui polarise le débat et dans lequel la jeunesse pourrait jouer un rôle important à condition de s'y intéresser. Et là où les médias traditionnels tâtonnent, les créateurs de contenu, eux, arrivent à produire une information très suivie. Ils sont conscients des enjeux, fonctionnent avec un modèle économique basé sur la publicité et les partenariats, comme Gaspard G. Aurélien Colli nous emmène à sa rencontre.
France Inter, Interception.
Je suis dans le 14e arrondissement de Paris, devant l'ancienne gare de Montrouge sur la Petite Ceinture. C'est un bâtiment du début du 20e siècle qui a été réhabilité et qui est devenu un espace contemporain qui regroupe programmation culturelle, sociale, café, restaurant, expo, événements. Ça s'appelle Le Poinçon. Alors, je suis là pour retrouver Gaspard G. C'est un YouTuber qui cartonne avec une chaîne sur la plateforme YouTube. Il a 800 000 abonnés et ça continue de monter. Il fait partie de ces nouveaux acteurs qui sont apparus sur les réseaux sociaux et qui font de l'information à destination d'un public qui consomme du réseau social et puis qui est plutôt de la jeune génération. Et si je viens le retrouver ici au Poinçon, c'est parce que pour la première fois, il va interviewer les têtes de liste aux élections européennes. Aujourd'hui, il va interviewer Marie Toussaint, candidate pour Europe Écologie Les Verts. C'est la première fois donc qu'il se jette comme ça dans l'arène politique pour sa chaîne YouTube.
Je m'appelle Gaspard, j'ai 26 ans et je fais des vidéos sur YouTube depuis 15 ans maintenant. J'ai commencé sur YouTube comme n'importe quel gamin d'internet, en parlant d'abord de jeux vidéo, ma petite vie d'ado quoi. Et puis progressivement j'ai grandi avec mon contenu. J'ai décidé d'arrêter de parler de moi il y a 5-6 ans pour essayer de m'intéresser plutôt au monde.
Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine, la guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien.
Extrait de la chaîne YouTube de Gaspar G sur l'Ukraine.
La mañana de este jueves 24 de febrero, los europeos se despertaron con la noticia de que Rusia llevaba a cabo una operación militar en Ucrania.
À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un peu plus d'un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Alors oui, la guerre est toujours assez loin de nous, mais elle se rapproche. Depuis plusieurs mois, j'avais très envie de me rendre en Ukraine pour voir de mes propres yeux comment ça se passe là-bas et surtout vous le raconter. Et puis, bon bah, je sautais pas vraiment le pas. Faut dire que je suis pas reporter de guerre, c'est pas franchement anodin. Mais justement, cette guerre militaire, cette guerre armée n'est que la face émergée du conflit. Alors avec mon équipe, on a décidé de couvrir une guerre plus discrète, plus cachée, dont on sait moins de choses. Je voulais vous filmer et vous raconter l'autre guerre en Ukraine.
Qu'est-ce qui fait que vous, ça fonctionne et que d'autres médias traditionnels qui essayent ça, bah, ils n'y arrivent pas?
Déjà, il y a une tonalité. On se vous voit là actuellement en train de faire cette interview. Ça, c'est quelque chose qui existe moins aujourd'hui sur le net. Il y a une authenticité, une granularité qu'on peut retrouver aujourd'hui chez des créateurs de contenu qu'on ne peut pas retrouver dans les médias tradis. Parce que voilà, il y a plus de phares, il y a plus de techniques, il y a plus de barrières en fait.
Les amis, je vous présente du coup... Aurélien qui travaille pour France Inter. Donc Clémence qui est ma productrice. Robin qui est derrière, qui fait tout l'électro. Louis qui est chef opérateur, qui s'occupe de tout l'image et la lumière sur le plateau. Donc Gauthier qui s'occupe du son.
C'est vrai qu'il y a une façon particulière, je vous demande à vous, chef opérateur, c'est ça? Ouais. Votre prénom?
Louis.
Vous avez quel âge?
24 ans.
24. Et alors, il y a une façon spécifique de filmer
Il y a une manière d'éclairer qui est différente de celle de la télé. Avec des sources larges, très diffusées. On assume de voir les projecteurs dans le champ, on assume de voir les pieds.
Alors ça, c'est la forme. Après, le fond.
Il y a un travail, en fait, qui est hyper important, de s'inspirer de ce qui s'est fait de mieux dans les médias d'hier, mais toujours avec une logique d'accessibilité, de ne pas casser, de ne pas rompre. Mais Clem, tu en parleras mieux que moi, de ce truc-là. Quand on essaye de bosser avec un journaliste ou une journaliste, parfois c'est un frein quand il ou elle a bossé pour un média tradit, parce qu'il y a des relents, des manières de faire.
C'est vrai que les codes sont un peu différents, même la manière de parler, la manière d'écrire aussi, comme le fait que ce soit une chaîne que Gaspard incarne à 100%. Il y a ce côté où il faut aussi essayer de coller à tout langage.
Vous disiez que, en fait, c'est surtout les médias traditionnels qui ont éloigné la politique, les grands thèmes sociétaux, des jeunes en tout cas aujourd'hui. En réalité, vous pensez qu'il y a un réel intérêt?
Quand on regarde les manifestations pour le climat, pour certaines causes dans la rue, on réalise que cette jeunesse, elle est là. Simplement, elle se retrouve plus soit dans des codes partisans ou dans la manière dont est diffusé et dont est distribué aujourd'hui le débat public en France. Et donc, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par des interviews politiques dans le cadre des européennes. L'Europe, quand même, ça. Je veux dire, il y a un Français sur deux qui n'a pas voté en 2019 dans le cadre des européennes. Et alors, les jeunes, c'est encore pire, c'est une catastrophe. L'Europe, c'est chiant. L'Europe, c'est mou. L'Europe, c'est complexe pour un Français de base. Alors, pour un jeune, en plus de ça, qui n'allume plus la télé ou la radio, il va falloir réussir à le reconnecter. Bon, là, c'est un pari sur ce genre de format. C'est un vrai risque éditorial et même financier pour ma petite boîte de production qui a à peine 2 ans. On va voir. On va voir si ça prend.
Bonjour.
Merci, de même.
Bon, alors voilà. Voilà où si voilà. Ça vous va, c'est ici qu'on tourne.
Donc Marie Toussaint, la candidate, est arrivée. Elle est en train de s'installer sur le plateau qui a été monté par les équipes de Gaspard G. Elle est en train de se préparer, puis vous lancez l'entretien.
C'est un format qui s'appelle Versus. Il y a les 6 têtes de liste qui aujourd'hui sont à plus de 5% dans les sondages qui sont invitées à prendre la parole. On leur pose les mêmes questions et on juxtapose leurs réponses. La plupart, ils ont gueulé, ils ont dit « Attendez, vous déconner ou quoi? 10 secondes sur un sujet? Bah oui, les gars, mais le truc, c'est que déjà, si on arrive sur 5 vidéos thématiques écologie, immigration, guerre en Ukraine, identité européenne et économie à intéresser les jeunes sur 15 minutes par vidéo, déjà, c'est extraordinaire. Si on arrive à faire ce truc-là, c'est fou. Et il y a tellement un besoin d'aller toucher des électeurs qui aujourd'hui ne s'intéressent plus au débat politique que, en effet, c'est pas très compliqué de les convaincre de venir. Il y a 820 000 personnes qui nous font confiance sur Internet. Nous, c'est une responsabilité très importante et on décide de faire les choses bien. Typiquement, on a pris la décision d'accueillir le Rassemblement National. Il y a beaucoup de streamers politiques, de youtubeurs politiques qui disent « Ah non, pas chez moi ». Ah oui, mais bon, aujourd'hui, c'est 35% d'intention de vote, donc qu'est-ce qu'on fait?
Donc, on va pouvoir démarrer, on respecte aussi votre temps. Hop, 1, 2 et 3. Bonjour Marie Toussaint.
Génération Algorithme, à la recherche de l'info, un reportage d'Aurélien Colli, prise de son Martin Troidec et Frédéric Quéroux, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage d'Ophar Guéride. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur franceinter.fr et sur les plateformes du groupe Radio France.